Chapitre 7 Cagliostro. Quel était ce personnage bizarre qui se cachait sous le pseudonyme de Cagliostro, c'est-à-dire du fameux sorcier qui, à la fin du XVIIIe siècle, peu avant la Révolution, avait bouleversé la haute société française par ses expériences basées, disaient les uns, sur le plus vulgaire empirisme, inspiré, prétendaient les autres, sur la connaissance la plus étendue des sciences occultes à travers les âges. Nul même dans le voisinage n'aurait pu nous renseigner, d'abord parce que ce Cagliostro, nouveau modèle, sortait jamais de la somptueuse et très moderne demeure qu'il avait achetée 3 mois auparavant et fait meubler par des artisans étrangers, qui seul avait eu le droit d'ouvrir les caisses de toutes dimensions, qui par les messageries du chemin de fer était arrivé 28 au d'une lague. Puis parce que ses 4 serviteurs, nègres, étaient muets, non pas de volonté, mais de naissance, et que lorsqu'ils se rendaient chez les fournisseurs, ils étaient toujours munis de petits papiers tapés à la machine à écrire, et qui notifiait, précisait aux commerçants les objets ou denrées qu'ils devaient leur livrer, payant d'ailleurs rubis sur l'ongle à Cab, Sem, Cham et Japhet, c'étaient les noms des 4 serviteurs qui, portant avec désinvolture la livrée rouge et or dont leur maître les avait affublés, étaient d'autant plus estimés du négoce environnant qu'il refusait avec dignité de recevoir le sou du franc et d'accepter même un apéritif. Ainsi que le disait une fruitière de l'avenue Mozart, ils avaient beau avoir l'air de singes savants, c'était tout de même des domestiques comme on n'en rencontre plus de nos jours. Et tout ce qu'on avait pu savoir de leur maître, c'était ce qu'on avait publié les journaux. C'est-à-dire qu'il était une espèce de prophète, déclaraient les uns, de tireur de cartes, selon les autres, et pour les sceptiques, un monteur de bobards, qui faisait bien de profiter de la crédulité des poires. À plusieurs reprises, certaines commères du quartier, soit par curiosité, soit par crédulité, s'étaient présentées 28 rue du Landlac pour, selon leur expression, se faire dire la bonne aventure. Mais le fidèle Acab, qui remplissait les fonctions d'huissier, ayant montré aux visiteuses un carton sur lequel il était indiqué que le prix de la consultation était de 500 francs, nos braves bonnes femmes s'étaient enfuies précipitamment en déclarant qu'elles n'étaient pas de celles dont on se paye la tête, et que ce Cagliostro n'était qu'un vulgaire mystificateur. Bientôt, dans le quartier, on ne s'occupa plus de lui que pour en plaisanter ou pour faire peur aux enfants vers lesquels il remplissait avantageusement croque-mitaine. Mais bientôt, on vit la clientèle chic affluer. Sans doute s'était-il mis en règle avec la préfecture de police et disposait-il de hautes influences grâce auxquelles il pouvait se livrer en toute liberté à ses expériences et à ses jongleries. Toujours est-il que chaque jour, à partir de l'après-midi, de magnifiques autos stationnaient devant le trottoir. Elles appartenaient toutes à des femmes du meilleur monde, dont le prétendu savant avait habilement su composer sa clientèle. Et le plus étonnant de l'histoire, c'est que jamais encore il avait fait une mécontente. Toutes ces dames, enchantées de leur mage, ainsi qu'elles l'appelaient, étaient unanimes à reconnaître qu'il ne les avait jamais induites en erreur, et que toujours, qu'il s'agît du présent, du passé ou du futur, leur avait révélé la vérité. Aussi, chaque jour, voyait-il grandir l'affluence des visiteuses, si bien que dans les salons, dans les cercles et dans le tiers des réunions mondaines de notre capitale, on n'entendait plus parler que de ce personnage. Le bruit même avait couru avec persistance qu'une souveraine d'une nation européenne n'avait pas hésité à avoir recours à ses offices et que s'en était déclaré enchanté. Aussi devait-on s'inscrire plusieurs jours à l'avance avant de pouvoir obtenir une audience du maître. Et assez souvent même était-elle refusée. Le mage sélectionnait de plus en plus ses habitués. Marie-Thérèse ignorait ce détail lorsqu'à l'heure dite, elle se présenta chez Cagliostro. Sans cela, elle eût été plus que surprise de constater que le sorcier mondain mettait un tel empressement à lui répondre. Certes, le nom de son mari commençait à se répandre, mais il ne justifiait pas de la part du devin un accueil aussi prompt. Malgré tout, lorsqu'elle sonna à la grande porte d'entrée en fer forgé qui se dressait sur le très épais carreau de teinte rouge, éprouvait-elle un petit pincement au cœur. La porte s'ouvrit aussitôt. Le nègre à cab s'inclina devant la visiteuse et la fit pénétrer dans un vestibule pavé de mosaïques et entouré de statues qui représentaient, par d'exacts et artistiques moulages, celles que l'on retrouve au cours des fouilles qu'accomplit à Delphes il y a quelques années. D'un geste, Acab montra à Madame Mervet une petite table de marbre qui supportait une coupe d'albâtre contre laquelle s'appuyait un carton rouge d'où se dessinaient ces mots en lettres d'or. On est prié de remettre sa carte au valet de pied. Marie-Thérèse s'exécuta aussitôt. Après s'être emparée du Bristol, Acab se dirigea vers le fond du vestibule, où, devant un épais rideau de velours rouge, Cham et Jaffet, en grande livrée, se tenaient immobiles, les bras croisés sur la poitrine. Ainsi qu'on le constate, Cagliostro n'avait rien négligé pour que, dès son entrée dans la maison, une mise en scène impressionnante en imposa tout de suite aux visiteurs. Après avoir remis la carte de Madame Gervais au Jaffet, qui disparut aussitôt derrière la teinture, Acab revint vers la femme du dessinateur et lui indiqua une sorte de chaise curule garnie de moelleux coussins sur lesquels elle s'installa. Mais l'attente ne fut pas de longue durée. 2 minutes à peine s'étaient écoulées que Jaffet revenait et, à l'aide de mimiques respectueuses et déférentes, faisait comprendre à Marie-Thérèse qu'elle n'avait qu'à le suivre. Le rideau rouge parut s'écarter de lui-même devant eux. Ils se trouvèrent alors dans un second vestibule, beaucoup plus petit que le second, et auquel aboutissait un escalier de marbre rose assez étroit, que n'ornait aucune balustrade et qui s'ouvrait en tournant entre deux murs lisses également en marbre. Une lueur très douce l'éclairait sans qu'il fût possible d'expliquer sa provenance. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à un palier de 6 mètres carrés environ et dont les murs étaient décorés des signes du zodiaque. Une sorte de portique de style grec s'élevait au fond, muni de grilles dorées aux barreaux très rapprochés. Toujours comme par enchantement, la grille s'ouvrit devant eux. Ils pénétrèrent alors dans une pièce de même style où se trouvaient plusieurs lits de repos. Des brûle-parfums répandaient autour d'eux leur senteur pénétrante. Enfin, soulevant une draperie bleue et toute nimbée d'étoiles d'or, Jaffet fit franchir Madame Gervais le seuil du cabinet où le mage Cagliostro tenait ses assises. Jamais, peut-être encore, la jeune femme n'avait éprouvé un aussi vif étonnement. Elle s'attendait à se trouver en face d'un homme vêtu d'une façon bizarre, presque à la façon des astrologues de légende ou des sorciers du Moyen-Âge, entouré d'un tas d'objets et d'instruments bizarres. Pas du tout. Le cabinet de consultation, très sobrement mais très artistiquement décoré, ressemblait beaucoup plus à celui d'un homme de lettres qu'à celui d'un intermédiaire de l'au-delà. Les murs disparaissaient presque entièrement sous des rayons de bibliothèque chargés de livres aux reliures magnifiques. Sur quelques jolis meubles modernes, des vases remplis de fleurs rares, et enfin, debout, souriant, accueillant, un homme auquel il était difficile de fixer un âge, tant sous ses cheveux grisonnants, presque blancs, sa figure entièrement rasée de près, demeurait d'une étonnante jeunesse. Sans son nez, par trop accentué, qui détruisait l'harmonie de ses traits, il était même très beau. Mais ce défaut physique disparaissait aussitôt. Et le regard de cet homme, regard d'une profondeur et d'une acuité surprenantes, mais aussi d'une bienveillance charmante, effaçait aussitôt ce qu'il pouvait avoir au premier abord d'intimidant et même de redoutable. Il était vêtu d'un complet d'une rare élégance qui faisait valoir sa ligne toute de distinction et de souplesse. Pas une bague, seule une perle d'un magnifique orient ornait sa cravate. Cagliostro, appelons-le ainsi, puisque c'était là le nom qu'il s'attribuait, fit deux ou trois pas vers sa cliente. On eût dit un médecin très mondain et par conséquent très affable, qui recevait une cliente et se préparait, le sourire aux lèvres, quand bien même fût-elle très malade, à la convaincre qu'elle n'était atteinte que d'une indisposition très légère. Monsieur, crut devoir dire Marie-Thérèse, je vous remercie d'avoir répondu si promptement à ma requête. Mais, madame, c'est tout naturel, répliquait Cagliostro d'une voix au timbre agréable et clair. Je n'avais aujourd'hui de rendez-vous qu'à partir de 3 heures. On déjeune si tard à notre époque que je me suis empressé d'accéder à votre désir. Et du ton le plus naturel du monde, il ajouta, je sais que vous avez des choses très graves à me dire. Et tout en lui montrant un siège qui était en place d'une table entièrement nue, il l'invita. Veuillez vous asseoir, madame. Ah, je commence par vous dire que je ne vous poserai aucune question. Vous êtes en effet de ces âmes qui s'ouvrent comme un livre. Je vais donc commencer, si vous le voulez bien, par feuilleter le vôtre. De plus en plus stupéfaite, Marie-Thérèse répliquait. Monsieur, je suis à votre discrétion. Auparavant, laissez-moi vous prier de reprendre tout votre calme. J'ai besoin que le miroir de votre âme ne soit brouillé par aucun souffle, par aucun voile. En ce moment, vous ne revenez pas de vous trouver en face d'un homme qui ne soit pas coiffé d'un bonnet pointu, revêtu d'une robe noire à lames d'or et d'argent, et autour duquel on ne voit aucun de ces appareils de physicien, ou plutôt de charlatans, dont depuis les temps reculés ont l'habitude de s'entourer ceux qui font profession de prédire l'avenir. Moi, madame, mon pouvoir est en moi. Toute ma science est dans ces livres. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous constaterez que ce sont tous des ouvrages de philosophie, de chimie et de médecine. Vous n'y rencontrerez aucune de ces œuvres qui ont entrée aux sciences dites occultes. Il n'y a pas de science en l'occultisme. Le don que je possède ne s'acquiert pas, on l'a en naissant. Sans aucun doute, il a une origine analogue à celle de ces forces que l'homme explore empiriquement sans les connaître, telles que l'électricité, par exemple. Je puis vous dire que dès que j'ai pu penser et dire quelques mots, mes parents ont été littéralement terrorisés par certains propos que je leur tenais et qui leur prouvaient que j'étais au courant d'événements qui s'étaient passés bien longtemps avant ma naissance et que je n'avais jamais entendu raconter par personne. J'allais même jusqu'à leur faire des prédictions qui les faisaient tordre de rire. Oh, par exemple, qu'une de mes tantes se casserait dans 3 jours une jambe dans l'escalier, qu'un tel serait arrêté pour avoir volé des pommes dans le verger de monsieur le curé. Et cela se réalisait à leur profonde stupeur. Et en grandissant, ces facultés s'accentuèrent à un tel point que mes parents consultèrent un médecin du pays qui haussa les épaules et commença par me traiter de petit badin, de petit farceur. Cependant, malgré son scepticisme, il fut bien obligé de se rendre à l'évidence, tant se répétaient les manifestations du don mystérieux que j'avais reçu en naissant. Il en parla à l'un de ses collègues parisiens qui consentit à m'examiner. Il ne découvrit en moi aucune tare physique, aucune déformation cérébrale. J'étais absolument normal. Il me mit en observation, et ainsi que le lui avait dit son ami, il fut obligé d'admettre que j'étais un véritable phénomène. Et il voulut me présenter à lui-même à l'Académie des sciences. Mais mes parents étaient des gens très simples. Mon père était un homme timoré, modeste. Il redoutait que la célébrité que je pouvais acquérir d'un moment à l'autre ne le forçât à quitter ce coin de terre provençale où il était né, où il n'aspirait qu'à vivre et à mourir. Ma mère, encore plus superstitieuse que croyante, la pauvre chère, se refusait énergiquement à ce que l'on racontât qu'elle avait un fils qui possédait le nom de Double Vue, tant elle avait peur que ce fût l'esprit malin qui habitât en moi. Et lorsque nous revînmes au pays, persuadée que j'étais possédé du diable, elle me fit examiner par le curé, sans obtenir d'ailleurs le moindre résultat. Et je continuai à lire dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Mais, curieux détail que je n'ai jamais pu m'expliquer, bien qu'il ait été et soit encore de ma part l'objet de nombreuses recherches, si j'ai toujours eu le don de lire dans les autres, je n'ai jamais pu dire en moi-même. Bien que je sois convaincu de la transmission des âmes, il m'a toujours été impossible de découvrir la moindre trace de mes existences passées, pas plus que je n'ai réussi à obtenir la moindre indication de ce que seront mes existences futures. Mais n'insistons pas sur ce sujet qui nous entraînerait trop loin. Cependant, comme je tiens à ce que vous me connaissiez bien, et c'est la seule façon pour moi de réaliser les intentions de confiance envers moi que je découvre en vous, je dois en quelque sorte vous raconter ma vie, en attendant que je vous raconte la vôtre. Tant que mes parents ont vécu, je suis resté dans ma province, car mon père, ah oui, j'avais oublié de vous le dire, était marchand de blé, et naturellement, il désirait me voir lui succéder. Moi, au contraire, j'étais animé du désir irrésistible de développer le privilège extraordinaire dont m'avait gratifié la nature, non pas seulement en m'instruisant par la lecture, mais par les voyages. Je voulais me rendre compte si les pays qui semblaient tout à coup surgir dans mon imagination étaient bien tels que celle-ci me les représentait. Et j'espérais encore, en parcourant des mondes que je n'avais jamais vu, et que pourtant j'avais l'impression d'avoir déjà visité, mettre de l'ordre dans le bouillonnement d'un cerveau qui ne me laissait pas de trêve. Ma pauvre mère s'en fut la première. J'avais tenu à adoucir ces derniers moments en lui affirmant que j'avais perdu cette faculté qui la torturait si cruellement, puisqu'elle l'attribuait à la malice du démon. Grâce à ce pieux mensonge, elle mourut en paix. Mon père l'a suivi bientôt en me recommandant de continuer son commerce qui lui avait donné l'aisance et pouvait me procurer la fortune. Pendant quelque temps, je m'efforçais d'obéir à sa dernière volonté. Mais ce fut impossible. Bientôt, je compris que je m'épuiserais en une lutte où j'étais certain de succomber. Et je vendis à un très bon prix la maison de commerce paternelle. J'avais alors 22 ans. Mais ce que je suis devenu, madame, il me faudrait des heures et des heures pour vous narrer toutes mes aventures. Je vous avouerai simplement qu'en dehors des deux pôles, aucune partie du monde n'est par moi ignorée. Au cours de ces voyages, j'ai passé par toutes les épreuves. Je dirais même que je les ai provoquées. Cela m'était indispensable pour obtenir l'entière maîtrise de moi-même dont j'avais besoin encore pour m'exercer officiellement. Et aussi bien qu'un médecin, et peut-être mieux que lui, ce que j'ai le droit d'appeler d'exercer mon ministère. Afin que nul ne puisse m'inquiéter, j'ai fait mes études de médecine. J'ai passé ma thèse et j'ai été reçu docteur, sous mon vrai nom, que depuis ce temps, j'ai jugé inutile de divulguer. Voilà pourquoi, dans la publicité que je suis obligé de faire dans les journaux, j'ai le droit de dire que ma méthode est uniquement, purement, scientifique. Mais je défie à tout autre que moi de pouvoir s'en servir utilement. Seul, j'ai le légitime orgueil de le prétendre. Oui, seul, depuis Cagliostro, qui possédait le même don que moi, et qui n'était pas l'aventurier que l'on a prétendu, mais un savant de génie. J'ai le triple pouvoir de scruter le passé, le présent et l'avenir, et de donner à ceux qui me consultent les conseils qu'ils veulent bien me demander, cela je vous l'assure, uniquement pour le bien de l'humanité. Si je me fais payer cher, et même très cher selon le cas, ou plutôt les personnes, ce n'est nullement par esprit de lucre. En effet, au cours de mes voyages, j'ai acquis des biens assez considérables pour qu'il me soit permis de vivre somptueusement et en toute indépendance. Mais j'ai tenu à éliminer les petits et ne conserver que l'élite, car à l'heure actuelle, les dirigeants n'ont jamais eu un aussi grand besoin d'être dirigés. Ma clientèle, pour l'instant, est presque exclusivement féminine. Mais je ne doute pas que d'ici peu, devant les résultats obtenus, un certain nombre de hautes personnalités masculines viennent me consulter. Ainsi, madame, il y a quelques semaines, dans le fauteuil où vous êtes assise, un personnage politique français très connu était là. Il voulait savoir s'il serait réélu. Je lui ai répondu qu'il serait mis en ballottage, ce qui était à prévoir, et qu'au second tour de scrutin, il aurait 522 voix de moins que son adversaire. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu, mais parce que je le vois. En effet, madame, tandis qu'il me parlait, je voyais afficher sur la porte les résultats de l'élection. Il est parti en haussant les épaules. N'empêche qu'après, qu'il a été battu par 522 voix, ainsi que je lui avais prédit, il est venu me faire amende honorable et il m'a demandé à quoi j'attribuais son échec. Je lui ai répondu, mais à la trahison de votre secrétaire. C'est vrai, s'est-il écrié en pâlissant. Et naïvement, il a ajouté, vous le saviez quand je vous ai consulté pour la première fois? Eh oui, monsieur. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas mis en garde contre les menées de ce drôle? Parce que je ne viens en aide qu'à ceux qui ont confiance, entièrement confiance en moi. Et j'ai tout de suite compris que vous me considériez comme un aventurier que vous regrettiez de m'avoir consulté. Mais c'est idiot, je vous aurais fait avoir la Légion d'honneur. Oh, la croix de guerre me suffit, ai-je répondu, en congédiant mon ministre. Et Cagliostro conclut. Oh, je suis sûr que lorsqu'il se représentera devant le suffrage universel, il reviendra me voir. Oh, pardonnez-moi, madame, ce long discours. Il m'a vivement intéressé, affirmait Marie-Thérèse, avec un accent de sincérité manifeste. Et maintenant, parlons de vous, lançait gaiement le sorcier moderne. Oh, encore un mot, cependant. M'avez-vous apporté ce que je vous ai demandé? Oui, monsieur, répliquait la femme du dessinateur. Voici d'abord un gant qui lui appartient, et puis une lettre qu'il m'a écrite en août dernier, lorsque j'étais chez mes parents à Deauville. Je vous remercie, fit Cagliostro, en s'emparant des objets. Il les examina avec une certaine attention. Puis il reprit. Voulez-vous me permettre de passer un instant dans mon laboratoire? Oh, soyez tranquille, je vous restituerai cette lettre et ce gant absolument tels que vous les avez remis. Et tout en prenant un livre dans sa bibliothèque, il le tendit à Marie-Thérèse en disant. En attendant, lisez quelques pages de ce livre, cela vous distraira. Tandis que le mage disparaissait, Marie-Thérèse ouvrit le volume. Il portait ce titre De l'amour conjugal. Dès les premières lignes, il mettait en garde la femme mariée contre l'adultère, plaie de la société et cause de tant de douleurs, de tant de larmes. Avec la ferveur d'une néophyte, se plongea dans son livre, dont la haute tenue morale et littéraire lui plut infiniment. Elle était tellement absorbée dans sa lecture qu'elle n'entendit ni ne vit qu'Agliostro qui revenait vers elle, le visage souriant. Un instant, il la regarda avec une satisfaction visible. Puis il fit Madame! Marie-Thérèse tressaillit, releva la tête et, rassurée par l'attitude et la physionomie du mage, elle dit Oh, j'étais tellement captivée par ces pages que vous m'avez donné à lire. Oh, ce livre vous plaît? Il me passionne. Alors permettez-moi de vous l'offrir. Je ne voudrais pas abuser, mais acceptez, madame, car il fait partie du traitement que je vais vous ordonner. Je vous remercie infiniment. Maintenant, à nous deux. Je commence par vous dire que les craintes que vous vous êtes forgées ne reposent sur rien. Votre mari, M. Gervais, ne vous a pas trompé. Il n'a jamais été, vous entendez, il ne sera jamais l'amant de Marquita. Abasourdie d'entendre Cagliostro lui tenir un pareil langage, la femme de l'artiste balbutiait. Oh monsieur, merci! Mais la stupeur allait s'accroître encore. Le mage, en effet, continuait. Il vous aime de toutes les forces de son être. Il n'a pour cette danseuse qu'il a découverte qu'un sentiment d'admiration artistique et d'amical intérêt. Il en est fier, comme il peut l'être justement de ses affiches. C'est une de ses œuvres, rien de plus. Voilà qui est entendu, vous me croyez? Je vous crois. Mais ce qui est beaucoup plus dangereux pour la paix de votre ménage, c'est l'ascendant que commence à exercer sur vous un certain comte Willis Hermatt. Comment? Pâlissait Marie-Thérèse. Vous savez aussi son nom? Toujours souriant, Cagliostro poursuivait. Je sais que vous lui plaisez et qu'il a décidé de vous envoûter. Oui, parfaitement, le mot n'est pas trop fort. de vous envoûter, comme il l'a fait pour tant d'autres. Il s'agit de vous dérober au charme irrésistible qu'il exerce sur les femmes dont il a décidé la conquête. Il le faut d'abord pour votre mari, que votre haïsseront briserait. Pour vous-même, qui avez mal aimé jusqu'ici, mais aimé tout de même, le grand artiste qu'il est déjà est le plus grand artiste que grâce à vous il peut être un jour. « Vous avez raison, monsieur, » affirmait Marie-Thérèse. « Mais vous qui savez tout, pouvez-vous me dire si je serai la plus forte ?»« Oui, » répliquait sans hésiter le sorcier moderne. « Et je vais vous en donner le moyen. » En sortant d'ici, vous allez téléphoner à Madame Arrigot que vous n'irez pas aujourd'hui chez elle, parce que vous avez appris, mais surtout ne dites pas que c'est par moi, que le comte Zermatt devait se trouver là comme par hasard. Madame Arrigot assistera vivement. Vous lui répondrez que vous êtes une honnête femme et que, étant donné le véritable guépier dans lequel elle a cherché à vous attirer, vous avez décidé de cesser toute relation avec elle, et en cas de récidive de sa part, de tout dire à votre mari. Vous m'écouterez, je vous le promets. Comme je suis content de vous, reprenait Cagliostro. Avant de nous séparer, je tiens à vous rassurer tout à fait. Devant votre attitude, le comte Zermatt, qui ne vous considère que comme un agréable passe-temps, un bibelot de plus à ajouter à sa collection, se mettra tout de suite en quête d'une autre maîtresse. Or, devinez sur qui va se fixer son choix ? Oh, je suis incapable de vous le dire. Eh bien, je vais vous le révéler. Sur Marquita. Est-ce possible ? Je vous donne rendez-vous dans 8 jours et vous verrez si je vous ai trompé. Alors, c'est bien entendu, un coup de téléphone à Madame Arrigot. En sortant d'ici, je me fais conduire au bureau le plus rapproché. Et dans 8 jours, vous revenez. Avec plaisir, monsieur. Ah, vraiment, je sais comment vous témoigner ma gratitude. Bien, en suivant mes instructions à la lettre. Ce sera fait, je vous le jure. À la bonne heure. Maintenant, monsieur, voulez-vous me dire quels sont vos honoraires ? Chère madame, répliquait l'étrange personnage, je ne prends d'honoraires qu'à ceux que je ne veux pas revoir. Monsieur, je suis confuse. J'ai raccommodé un ménage et fait 2 heureux. Voilà des honoraires tels que je voudrais bien en toucher tous les jours. Marie-Thérèse interrogeait. M'autorisez-vous à mettre mon mari au courant de ma démarche auprès de vous ? Non, c'est inutile. Cela pourrait le troubler au moment où il doit au contraire être pleinement persuadé qu'il a reconquis toute votre confiance. Un jour, quand tout sera bien rentré dans l'ordre, c'est-à-dire bientôt, eh bien, vous me l'amènerez, ce peintre de talent, et je serai ravi de faire sa connaissance. Marie-Thérèse tendit la main à celui qu'elle considérait comme un sauveur. Respectueusement, il l'effleura de ses lèvres. Puis il la conduisit jusqu'à une petite porte qui donnait dans une sorte d'escalier dérobé. « Vous n'avez qu'à descendre ces marches, » dit-il. « Mon serviteur Sam vous montrera la porte de sortie. » Madame Gervais s'éloigna en songeant. « Mais cet homme est prodigieux. C'est pas un sorcier, ce n'est pas un savant, c'est un apôtre et un prophète. » Quant à Cagliostro, dès qu'il lui fut rentré dans son bureau, sa figure prit soudain une expression de colère froide et de cruauté implacable. Et tout en s'installant devant sa table, il dit « Ah, c'est ainsi, monsieur Villi. Que vous voulez agir à votre fantaisie, eh bien, vous allez savoir de quel bois votre papa se chauffe.